Vous écoutez, on lit pour vous.
Génération fatiguée, mais pas trop découragée. Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 19 janvier 2026 dans la presse. Les jeunes sont fatigués. Plusieurs sont épuisés. Mais ils sont aussi nombreux à chercher des moyens innovants pour vivre autrement. Le documentaire « Génération Burnout », diffusé pour la journée Belle Cause, pour la cause du mercredi 21 janvier, en a fait le point. D'abord les faits. Non, la détresse psychologique des jeunes de la génération Z, née entre 1997 et 2012, et milléniale, 1981 à 1996, n'est pas un mythe. Elle est documentée. Et génération Burnout est aussi bourrée ici de statistiques, témoignages à l'appui des quatre coins du pays. Notamment, l'artiste multidisciplinaire Pony, éponge à émotions autoproclamée, une Québécoise partie refaire sa vie et lancer une boîte de surf à Tofino, un jeune père de famille de Toronto qui en a arraché dans sa vie personnelle. Plusieurs experts venus du monde de la psychologie, de la santé publique, de la sociologie et même de la philosophie appuient les témoignages en question, en quête d'analyse et d'explication. Parmi ceux-ci, Mélissa Généreux, médecin, experte en santé publique, professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke. Sans contredit, les symptômes d'anxiété et de dépression sont plus présents chez les jeunes adultes, confirme-t-elle en entrevue. Les jeunes vivent beaucoup plus de stress et nos données montrent qu'ils ne se sentent plus seuls que les générations plus âgées. Il y a une perte de sens plus présente chez les jeunes. Entre autres explications ici apportées, il sera question des effets de la pandémie, bien sûr, mais pas que. Pression de performance, sollicitations tout azimut sur les réseaux sociaux, crise du logement, coût de la vie, sans parler d'un sentiment de responsabilité globale face à la crise climatique et autres conflits mondiaux. Plusieurs jeunes disent ici se sentir submergés par tous ces stresseurs, certains uniques, et critiques à leur génération ultra-connectée. Un message d'encouragement. Le réalisateur Aurélien Hoffner en sait quelque chose. Âgé de 40 ans, il fait partie de cette génération-là, dit-il, une génération pour qui le monde du travail a changé, les repères aussi. L'anxiété par rapport à la planète, je l'ai vécue personnellement et j'ai fait un burn-out moi-même. Précision. Dans le titre « Burnout » est ici entendu au sens populaire du terme, dépassant les limites du monde professionnel. C'est un terme un peu fourre-tout, précise-t-il, qui veut dire aussi « épuisement de vie ». Quant à lui, cet épuisement l'a motivé à faire des sacrés changements. « J'ai quitté Toronto, lancé mon entreprise « The Hoffner's Production » et décidé de suivre mes rêves », résume-t-il. « J'ai changé de cadre et de vie » et j'ai déménagé dans l'Ouest. Depuis 10 ans, c'est de là qu'il produit des documentaires, essentiellement en français, et sur des enjeux de société variés. Mais c'est un « feel-good doc », dit le réalisateur Aurélien Hoffner. Oui, on est tous dans le même bateau, mais au bout du tunnel, il y a de la lumière. Il y a un message d'encouragement et d'espoir, et les jeunes le disent, « Accrochez-vous ». Parfois, avec beaucoup d'émotion, faut-il le signaler. Au bout d'un moment, l'orage passe, résume le réalisateur. À noter que non, il n'a pas été très difficile de trouver les participants pour son film. On a fait une annonce et on a reçu pas mal de réponses. Les gens sont assez ouverts à en parler désormais. Fini le temps, du moins pour ces jeunes générations, où les enjeux de santé mentale étaient tabous. On est des générations très lucides, avance aussi Aurélien Hoffner. On a vu nos parents et les générations précédentes avoir une identité liée à leur travail, et est-ce que le monde s'en porte mieux? Nous, on questionne ce monde du travail et la place du travail dans nos vies. Entre autres pistes avancées ici ou là pour voir la vie au-delà de son écran d'ordinateur, la nature, l'art et la culture. Ce sont de beaux exemples qui sont mis de l'avant. Ils font preuve d'une belle sagesse, cohérente avec ce que dit la science, reprend Mélissa Généreux. Et je recommande à tous mes étudiants en médecine, à mes enfants et à mes proches de l'écouter, le documentaire. Pas parce que je suis dedans, mais parce que c'est très juste, conclut-elle. Oui, ils sont fatigués. Cela peut sonner négatif, concède-t-elle, mais ce sont aussi des générations en mode solution. C'était génération fatiguée, mais pas trop découragée. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 19 janvier 2026 dans La Presse.
Itinérance au féminin, de Parfaite Battante. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir. Ton voisin qui vit dehors, c'est quand même ton voisin, dit un graffiti qui touche Annie droit au cœur. Ta voisine aussi, pourrait ajouter Annie et la joyeuse bande des Parfaites. Un collectif de femmes ayant vécu dans la rue qui, depuis 2015, sensibilise le public à la réalité de l'itinérance au féminin. Moi, des fois, j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de vivre en tant qu'itinérante, me dit Annie. Aux passants qui détournent le regard, elle a envie de dire « Arrêtez de tourner la tête quand vous voyez des personnes en situation d'itinérance. Peut-être dire bonjour, peut-être sourire, peut-être offrir une cigarette, offrir un café. Ça peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Le simple fait de se sentir humain dans le regard de l'autre, ça change tout », rappelle-t-elle. J'ai eu la chance de rencontrer cette semaine Annie, Sylvie, Chantal et Lily. Ce sont quatre femmes du collectif des Parfaites. Ce fabuleux comité est né d'un projet de recherche participative de la regrettée professeure de l'Université de Montréal, Céline Bello, en collaboration avec sa collègue Hyacinthe Rivard. L'idée de départ était de rendre visibles des expériences d'itinérance au féminin, souvent invisibles. Pour y arriver, les chercheuses ont donné une voix à des femmes qui, fortes de leur expérience de vie et de survie, possèdent une expertise qu'aucun diplôme universitaire ne permet d'accoter. Annie a entendu parler de ce projet à la Rue des Femmes, l'organisme qu'elle fréquentait lorsqu'elle était sans abri. Au début, la Montréalaise, qui a eu une vie marquée par la violence conjugale et la toxicomanie, y a vu une simple façon de gagner un peu d'argent. Après, je me suis rendu compte qu'on écoutait vraiment ce que j'avais à dire. J'avais l'impression que ça avait un impact sur les gens autour de moi. On reconnaissait ma voix. Sylvie, qui est sortie de la rue il y a 30 ans et a vécu des problèmes de consommation assez « all dressed », pour reprendre ses mots, renchérit. On me donnait l'opportunité d'aller dans ma voie, tout en me donnant une voix. Ensemble, on a fait des miracles. À titre de co-chercheuse, les Parfaites ont fait entendre leur histoire dans plusieurs colloques et rencontres. Elles ont participé à l'ouvrage « Penser l'itinérance au féminin », presse de l'Université du Québec. En 2022, avec le soutien de Céline Bello, qui avait déplacé des montagnes pour réaliser ce projet ambitieux, elles se sont rendues en Belgique pour un congrès réunissant des professionnels de l'intervention sociale de la francophonie. Elles y ont présenté un jeu de type serpent et échelle, créé afin d'illustrer les obstacles dans leur parcours. Un parcours où l'on croise beaucoup de serpents et trop peu d'échelles. Il y a quelques années, lorsque les Parfaites ont présenté leur outil de sensibilisation à la ville de Montréal, elles ont ému aux larmes ceux qui se sont prêtés au jeu. Qu'ont-elles le présenter à l'équipe de la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada? Rien n'est prévu encore, mais l'idée leur plaît. Ce serait cool, avis aux intéressés. Ce que veulent les Parfaites, c'est que l'émotion soit suivie d'action. C'est avec cet objectif en tête qu'elles ont participé aux travaux de l'Office de consultation publique de Montréal sur l'itinérance et la cohabitation sociale. Dans le rapport dévoilé l'été dernier, leurs voix sont citées. On y retrouve notamment des bribes de l'histoire de Chantal qui me raconte comment, à 50 ans, sa vie a basculé. Quelques jours avant son anniversaire, elle s'est retrouvée dans un centre d'hébergement pour femmes. De sa vie d'avant, il ne lui restait qu'un petit sac à dos. Et mes yeux pour pleurer, ajoute-t-elle. Parce qu'après 8 ans sur une liste pour une demande de HLM, je n'étais pas prioritaire. J'étais dans la rue, mais pas prioritaire. Les Parfaites ont tenu à dire en consultation à quel point, en l'absence de ressources suffisantes réservées aux femmes en situation d'itinérance, elles s'exposent à de multiples dangers. D'où l'urgence d'augmenter le nombre de lieux sécurisés pour les femmes et de mieux les accompagner. Lily ne comprend pas pourquoi on ne transforme pas davantage d'églises désertées en refuges. Les églises calvaires, elles servent à quoi? Il n'y a plus personne qui va à la messe. Préoccupée par le sentiment d'insécurité des femmes dans la rue, Annie souhaiterait qu'on leur offre gratuitement des cours d'autodéfense pour affronter la violence physique, mais surtout l'emprise psychologique qui commence bien avant les coups. Lily le dit souvent, on se fait violer, on se fait tuer, c'est terrible, mais c'est la vérité. De tels cours seraient tout aussi utiles pour les femmes vulnérables prises dans l'étau de la violence conjugale, ajoute Chantal. Il y a des femmes qui ne sont pas dans la rue, mais qui restent avec un conjoint parce qu'elles ne veulent justement pas se retrouver dans la rue. Annie fonde beaucoup d'espoir en Soraya Martinez-Ferrada, qui fait de la lutte contre l'itinérance une priorité. Elle est sensible aux personnes qui habitent la rue, j'ai hâte de voir. Moi, je suis une optimiste indécrottable. Mais si elle sent que les revendications des parfaites ont été bien accueillies par la ville, Lily est plus sceptique. J'ai l'impression que ça va aller sur une tablette. Elle avoue avoir été déçue d'entendre la mairesse dire à Tout le monde en parle qu'il y aura toujours de l'itinérance, comme si c'était une fatalité. Ça m'a jeté à terre. En revanche, elle aime bien son approche en matière de campement, les encadrer en collaboration avec des organismes communautaires plutôt que de les démanteler sans pouvoir offrir d'autres solutions, en espérant qu'elles fassent de quoi. Quoi qu'il en soit, si rien ne bouge, les parfaites et leurs alliés n'entendent pas baisser les bras. Avec la réalisatrice Anne-Céline Genevoix, qui prépare un documentaire dont elles sont les héroïnes, elles ont travaillé à un projet théâtral où elles imaginent leur propre gouvernement. Au printemps, elles se rendront à l'Assemblée nationale pour la première fois à l'invitation de la députée solidaire Manon Massé, qui tient à faire résonner leur voix dans la maison du peuple. Peut-être que ça va faire boucher les choses, peut-être que non, dit Lily. Mais en tout cas, j'ai toujours de l'espoir au bout de la ligne. Parfaite est l'acronyme de Père aidante, de la rue à la recherche, au féminin, aide, témoignage et sensibilisation. La situation n'est pas propre à Montréal. L'Office de participation publique de Longueuil faisait le même constat mercredi. C'était « Itinérance au féminin, de parfaite battante », un texte de Jessica Nadeau, paru le 20 janvier 2026 dans Le Devoir.
La sociologie est-elle une science? En sous-titre, chaque discipline construit sa démarche et son savoir en fonction de l'objet qu'elle étudie. Un texte de Gérard Bouchard, publié dans Le Devoir du 28 février 2026. J'ai été surpris l'été dernier d'apprendre, sur la foi de 3 sondages, qu'environ la moitié des jeunes Québécois appuyaient le projet de souveraineté. Un paradoxe. Il est difficile d'expliquer cette recrudescence. Diverses études québécoises réalisées depuis quelques années ont établi qu'en grande majorité, les jeunes sont très individualistes et vivent dans une sorte de bulle, mais aussi au sein de petits groupes d'amis qui partagent leur univers culturel. On apprenait aussi que l'école exerce sur eux une influence très inégale, qu'ils ne lisent pas les journaux, regardent peu la télévision, ne s'intéressent pas beaucoup à l'actualité, sauf à l'environnement, sont peu politisés et délaissent les productions culturelles d'ici. Enfin, on découvrait que le temps d'écran prolongé s'accompagne de nombreux effets nocifs. Sauf exception, les différences entre garçons et filles seraient minimes. Les sondages sur l'adhésion à la souveraineté font manifestement mentir ces résultats. De nombreux jeunes seraient non seulement sensibilisés à la vie politique, mais ils appuieraient aussi, en grand nombre, un projet politique très audacieux qui invite à une véritable réflexion politique. Les enquêtes sociologiques évoquées plus haut reposent pourtant sur une méthodologie rigoureuse. Leurs résultats, du reste, se recoupent en très grande partie. Que faut-il en penser? Il est évident que cette anomalie, si on me permet cet euphémisme, ne fait pas bien paraître les membres de ma confrérie. Les sceptiques ne manqueront pas de douter des sciences sociales et surtout des sociologues. Le pire, c'est que les annales de notre discipline recèlent d'autres expériences semblables. Un précédent troublant. Durant l'hiver 1968, le quotidien français Le Monde a invité Alain Touraine, alors l'un des sociologues les plus renommés en Europe et au-delà, a livré ses réflexions sur l'État et le devenir de la France. Le maître a accepté de s'exécuter et en 4 tranches, si je me souviens bien, il a publié un diagnostic très savant sur la société française dans ses différentes sphères. Les textes étaient remarquables d'érudition. Mais ce qui était encore plus remarquable, c'est qu'on n'y trouvait pas le moindre indice de l'explosion qui allait ébranler le pays quelques semaines plus tard. Cela dit, Touraine n'en restait pas moins un grand sociologue. L'épisode illustre plutôt la difficulté de prévoir le devenir d'une société. Le cas n'est pas si rare. En voici un autre exemple. En 1999, deux sociologues américains réputés, John A. Hall et Charles Lindham, faisaient le point sur leur société dans « Is America Breaking Apart ?». Leur thèse? La société américaine se porte bien. Valeur commune, entre parenthèses sacrées, dynamisme, force des liens sociaux, facteurs positifs convergents, vision commune, cohésion, etc. On connaît la suite. Chez les sciences exactes. Avant de clouer les sociologues au pilori, regardons un peu du côté des sciences dites exactes, les pures, les vraies. On découvre que leur histoire n'est pas exempte de pareils déconvenus. Le très célèbre Luc Montagnier, découvreur du virus du sida et prix Nobel 2008 de physiologie médecine, a vainement passé les 14 dernières années de sa vie à défendre l'idée, pourtant très limpide, de la mémoire de l'eau. Un second exemple met en vedette le physicien Brian Josephson, un autre prix Nobel qui adhérait également à l'idée de la mémoire de l'eau. Il prétendait aussi avoir découvert la fusion nucléaire « froide », entre guillemets, une théorie qui allait à l'encontre de tout le savoir accumulé dans ce domaine et qui n'a toujours pas pris preneur. Le principe d'incertitude. Poursuivons notre incursion dans les sciences exactes. En mécanique quantique, on a découvert un phénomène étrange connu sous le nom de « principe d'incertitude ». Il tient dans le fait qu'il est impossible de reconnaître précisément la position d'une particule atomique ou subatomique et, en même temps, de mesurer sa vitesse ou son énergie. J'invite les esprits curieux, mais pressés à consulter Google, à l'article Heisenberg, H-E-I-S-E-N-B-E-R-G. Dans le même esprit, on pourrait évoquer aussi la non moins étrange divergence sur la nature de la lumière, onde ou flux corpuscule. Il existe en quelque sorte un phénomène équivalent en sociologie. Les études sur les grands groupes de sujets révèlent des traits généraux, mais elles sont inaptes à éclairer des réalités plus fines, ce que permettent des études sur de petits groupes. À l'inverse, ce que livrent ces observations micro-sociologiques ne peut pas être généralisé. Défaillance de la sociologie ou différence d'objets? Ce qu'il faut retenir dans le cas qui nous occupe, c'est que les enquêtes sociologiques à petite échelle auraient pu capter des sensibilités, des aspirations, des inclinations annonciatrices de ce qui allait devenir des convictions souverainistes. En d'autres mots, elles auraient pu découvrir des choix en gestation. On parlera donc ici non pas d'une défaillance de la sociologie, mais de spécificité méthodologique. Revenons à Alain Touraine. On expliquera peut-être de la même façon ce qu'il n'a pas vu. Son analyse empruntait une perspective macro-sociologique, ce qui était inévitable compte tenu de ce qui lui était demandé. Dans ces conditions, son étude était impeccable. Il a néanmoins raté l'essentiel, ce qui se préparait et se déployait au ras du sol, si on peut dire. Si l'on conclut de ce qui précède que la sociologie n'est pas une science, il faudra en dire autant de la physique. Le parti le plus sage invite à comprendre qu'il n'y a pas de savoir infaillible, en dehors, bien sûr, des « vérités révélées », vérités entre guillemets, Mais on retiendra surtout que chaque discipline construit sa démarche et son savoir en fonction de l'objet qu'elle étudie. Or, celui des sciences sociales, les humains en société, est malléable, mouvant, imprévisible. Il ne se prête guère à la formulation de lois. Les connaissances qui en résultent n'en sont pas moins « exactes » entre guillemets à leur façon. Elles sont rajustées à la réalité, à l'étude. Et c'est ainsi que Gérard Bouchard termine cette chronique qu'il a titrée « La sociologie est-elle une science ?» Texte publié dans Le Devoir du 28 février 2026.
La vérité de Serge Thériault. Un texte de Benoît Lelièvre, paru le 11 décembre 2025 dans le magazine Urbania. Sur la scène, je suis jamais malade, jamais déprimé. Une déclaration simple, mais lourde de sens. Le comédien et humoriste Serge Thériault a disparu de nos écrans depuis 20 ans et les rumeurs à son sujet tourbillonnent comme des feuilles à l'automne sans jamais se poser. Reclus, Serge est en dépression majeure. Serge n'est plus capable de faire son métier. Depuis, son absence alimente le mythe et la légende s'est transformée en mystère. Bien qu'il ait refait surface dans le cadre d'un épisode spécial de La Petite Vie en 2023, pour une entrevue avec son complice de toujours Claude Meunier l'année suivante, et qu'un documentaire ait mis en lumière ses proches en 2021, personne n'avait encore jamais remis les projecteurs sur Serge Thériault pour parler du bon comme du mauvais, tel que l'a fait la scénariste et réalisatrice Catherine Proulx dans le documentaire « T'étais où, Serge ?» disponible sur Ici Tout TV. Dans ce nouveau documentaire, on peut observer l'homme à qui le rire du public donne des ailes, mais dont le silence les coupe. Serge Thériault ne s'est pas éclipsé parce qu'il souffrait sur scène. Le problème, pour lui, aura toujours été d'en sortir. De la quenouille bleue à Gasbar Blues. Malgré son titre sans équivoque, « T'étais où, Serge ?» n'est pas un documentaire sur la maladie et la réclusion de Serge Thériault. Il vise plutôt à recontextualiser l'artiste au sein de la culture québécoise. On remonte à l'époque de la Quenouille bleue, un collectif humoristique à l'origine d'une kyrielle de talents s'apprêtant à marquer l'histoire culturelle du Québec. Parmi eux, Thériault fait l'unanimité. Michel Rivard, un ancien membre du groupe, participe au documentaire pour parler de sa rencontre avec le futur interprète de Moment. À l'époque, l'intensité et la précision de son jeu faisaient déjà de lui un interprète à part. L'interprétation, c'est pour moi une opportunité de sortir de mon corps, raconte Thériault qu'on voit parcimonieusement à l'écran. Aujourd'hui, âgé de 77 ans, il porte une barbe qui le rend méconnaissable. Bien qu'il ait consenti à ce que l'équipe de tournage saisisse des images de lui, l'entrevue est seulement à l'audio, question de le mettre à l'aise. « T'étais où, Serge ?» rappelle au public québécois que Thériault a été un formidable comédien dramatique en plus d'un de nos humoristes les plus célébrés. Trop peu s'en souviennent, mais il a été l'interprète de Bernie, alias Bernard Lacasse, l'un des personnages premiers LGBTQ+, non caricatural, à apparaître dans une série à heure de grande écoute, jamais deux sans toi. Les cinéphiles se souviendront aussi de lui pour son rôle de François Brochu, le bouleversant patriarche de Gasbar Blues. Il serait facile d'assigner à Thériault le stéréotype de clown triste. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Diagnostiqué bipolaire, il exorcise son mal de vivre en devenant quelqu'un d'autre, mais retombe inexorablement dans sa propre peau. À la toute fin de Tétéo et Serge, on peut voir une entrevue d'archives réalisée en marge du tournage de Gaspar Blues. La journaliste demande à Thériault comment il entrevoit de quitter la peau de son personnage. On perçoit une douleur qui lui traverse le visage. L'excellence de Serge Thériault est le produit d'un besoin de guérir de lui-même. C'est l'essence de la beauté tragique qui habite ce grand monsieur. La réalité plate de la souffrance. Cette rétrospective met également en lumière une réalité tout aussi banale qu'évidente de la disparition de Serge Thériault de nos écrans. Il n'y a pas de grand mystère ni de souffrance secrète derrière cette retraite. Il n'allait pas bien et avait besoin de se soigner. Une recherche d'équilibre à travers les hauts et les bas. C'est tout. Lorsque quelqu'un disparaît sans fournir d'explications, on a tendance à se raconter des histoires qu'on finit par croire, par exemple, qu'il est parti refaire sa vie sous des cieux plus cléments. Guylaine Tremblay, interprète de Caro dans La Petite Vie et qui intervient aussi dans le documentaire, explique que la force du jeu de Serge est de toujours livrer sa vérité à lui, d'être capable de la comprendre et de l'articuler. Le travail de Catherine Proulx est à l'image de cette vérité très personnelle. On y déboulonne le mythe du génie torturé pour présenter un homme souffrant, ambivalent, qui se méfie un peu de ce besoin d'amour dévorant l'ayant autrefois transporté. Tétéo Serge met un point d'orgue sur un grand personnage ayant passé les deux dernières décennies à essayer de reprendre ses aises dans sa propre peau. Il était où, Serge? Avec lui-même, là où c'était important de l'être. Si je vous en recommande le visionnement, je vous garantis aussi que ça vous donnera probablement le goût de revoir l'intégrale de La Petite Vie, Ding et Dong le film, Gaspar Blues, Les Boys, Le Sphinx, pour baigner dans l'univers de Serge Thériault un peu plus longtemps. C'était « La vérité de Serge Thériault », un texte de Benoît Lelièvre, paru le 11 décembre 2025 dans le magazine Urbania.